souhaite une excellente soirée. Au revoir.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour aborder la question de l'entrepreneuriat social lié à l'autonomisation des communautés. Puisque nous savons que des milliers d'Africains entreprennent des projets de développement économique liés à l'autonomisation des jeunes et des femmes en particulier, les initiatives d'entrepreneuriat social se multiplient. Certaines donnent de bons résultats au plan local, tandis que d'autres ne parviennent pas à sortir les communautés de l'indigence en l'absence de soutien ou partenariat conséquent. Alors comment gérer efficacement des programmes locaux d'autonomisation? Quelle stratégie adopter pour garantir la faisabilité et la viabilité d'un projet communautaire? Comment choisir ses partenaires? Entre autres questions, nous allons nous les poser notamment avec notre invitée Manuela Bayoukoum, centrafricaine. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci Nathalie pour l'invitation.
Alors vous êtes experte en développement économique, spécialisée en gestion de programmes innovants et de portefeuilles pour améliorer, je précise, les résultats et la durabilité du capital humain. Vous êtes conférencière militante en faveur de l'autonomisation des femmes, entre autres activités et fonctions. Alors on sait que la communauté s'organise elle-même en l'absence d'initiatives en général nationales visant à améliorer la condition socio-économique des populations. Brièvement, quel type de projets sont susceptibles de bénéficier aux communautés rurales et voire citadines? En gros, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien?
Alors, merci beaucoup Nathalie pour cette question. Donc, ce qui marcherait bien, déjà, ça dépendra du contexte local parce qu'on ne peut pas généraliser. Ce qui marchera dans une région ne pourra pas forcément marcher dans une autre. Ce qui marchera dans un pays ne serait pas forcément le cas de notre pays. Donc, le premier pas serait de travailler avec l'audience, le cible, les targets pour identifier les besoins et aussi travailler avec la communauté pour connaître les défis et les opportunités. Maintenant, si on parle de l'Afrique en général, la région que je maîtrise, le continent que je maîtrise le mieux. Pour le moment, l'important, c'est au niveau des infrastructures, la santé et l'éducation. Donc, tout projet visant ces domaines sont susceptibles de bien marcher et aussi promouvoir l'entrepreneuriat et la jeunesse, l'autonomisation des femmes et aussi former les jeunes et leur permettre de se développer pour réaliser leur potentiel.
Infrastructure, santé, éducation, c'est ce qu'on retient. On va écouter pour commencer un petit commentaire, c'est celui d'une Congolaise, c'est Sarah Ntamboué. Elle est coordonnatrice de l'ONG Change Your World à Goma.
Vraiment un plaisir pour moi de faire entendre la voix de femmes et de jeunes qui ont bénéficié à différents programmes à travers notre association sur le programme d'entrepreneuriat social et d'autonomisation des populations que nous servons à travers notre structure. Il y a déjà des avancées dans ce sens où le gouvernement prend de l'avant, mais l'idéal serait de renforcer encore cette collaboration parce que les garants idéaux d'une autonomisation et d'un entrepreneuriat plus large serait le gouvernement. À travers ces institutions légitimes, je pense qu'il devrait faire de la priorité d'autonomisation de population, mais aussi de cet entrepreneuriat social au centre de ces interventions. Car les ONG, bien sûr qu'on est là, et en collaboration, en partenariat avec plusieurs organisations et agences, nous essayons de faire notre part, mais nous ne pouvons pas garantir cela pour une période donnée ou durable. Pour un développement durable, il faut que le gouvernement assume le grand rôle dans l'entrepreneuriat social et l'autonomisation des populations.
C'était Sarah Ntamboué à Goma. Voilà, Manuela, vous avez entendu, elle a parlé notamment du rôle des gouvernements. On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En tout cas, ce qui va intéresser le plus nos auditeurs, c'est les financements, forcément. Est-ce qu'il y a, au niveau des gouvernements, sans trop généraliser, mais pour avoir un petit peu des bases, des incitations, des subventions, et surtout, aux quelles institutions on peut faire appel pour ce qui est des recherches de financement, et sachant qu'on sait très bien qu'il doit y avoir énormément de demandes, donc c'est vraiment pas facile d'en obtenir, n'est-ce pas?
Exactement. Pour rebondir sur le point de Madame Sarah, Au niveau du gouvernement, ça sera un peu compliqué parce qu'en Afrique, on se rend compte que nos gouvernements ont beaucoup de problèmes en termes de financement. Ils n'ont pas déjà assez de ressources pour financer leurs propres projets. Et donc, attendre du gouvernement des ressources serait... pourrait constituer un blocage. Donc, ce que je conseillerais, c'est de choisir les partenaires. Oui, il existe des institutions internationales qui financent des projets. Et donc, il serait important d'abord de développer les objectifs du projet et d'identifier les partenaires qui pourront soutenir ces projets. C'est vrai qu'au niveau du gouvernement, souvent dans les ministères, il y a des ressources, mais ce serait pas la meilleure idée de compter uniquement sur ces ressources parce que la demande est grande. Et les ressources ne sont pas aussi vastes que cela. Donc, il faudrait diversifier son portefeuille, identifier les partenaires qui pourront davantage accompagner cette organisation en particulier dans son projet. Et donc, au début, vous avez mentionné un point important sur l'identification des partenaires. Il y a des critères pour cela. Je dirais, par exemple, déjà définir les objectifs et les valeurs pour s'assurer que ces objectifs et ces valeurs soient alignés à ceux des partenaires qui avec lesquels on devait s'associer et chercher au fait à faire des recherches sur leur crédibilité pour s'assurer qu'ils ont l'habitude de travailler avec des ONG, qu'ils ont une très bonne réputation, qu'ils ont l'expertise, qu'ils ont les connaissances et également au fait matérialiser ce partenariat parce que c'est bien de faire les recherches mais l'objectif au fait c'est d'avoir de l'impact. Ouais. Donc aller vers les partenaires, discuter avec eux puisque le partenariat doit être gagnant-gagnant.
Moi ce que je comprends ici c'est qu'on peut tomber aussi sur de mauvais partenaires donc il faut bien les choisir.
Exactement.
Il faut pas y aller forcément parce qu'on vous dit oui ça nous intéresse, vous nous intéressez, on peut vous aider financièrement mais il faut que derrière ils assurent bien entendu. On va faire un petit tour au Niger avec, pour écouter Ibrahim Issa qui est à Maïné Soroa.
Pour rendre visible et viable les projets d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, pour les rendre autonomes, tout d'abord, le problème ici, c'est qu'en Afrique, les activités sont menées comme informelles. Si l'État doit se ressaisir pour rendre ces activités comme fermelles, tout en ouvrant des comptes bancaires pour bénéficier des financements, ce qui fait éviter les intermédiaires. Si les partenariats, les ONG, l'argent qui leur sont financés sont quasi utilisés dans leur fonctionnement.
Manuela Mbayokoum, alors vous travaillez particulièrement dans les projets innovants. Est-ce qu'on peut avoir des exemples, notamment, j'imagine, dans la technologie, la recherche, je sais pas, l'environnement, l'agroalimentaire, ou en tout cas, quel genre de projet vous conseillez peut-être pour les jeunes, d'ailleurs des projets qu'ils aimeraient faire?
Je reviendrai toujours à mon point initial, celui d'identifier les besoins en fonction des régions. Les projets innovants sur lesquels je travaille sont plus reliés au domaine de l'éducation, former la jeunesse, en particulier les femmes, pour leur donner l'accès à l'éducation et aussi à la formation qui leur permettra au fait de pouvoir avoir les compétences et l'expertise nécessaires pour être compétitifs sur le marché du travail. Alors, en termes de projet, ce serait un peu vaste de pouvoir faire des suggestions, mais je dirais travailler en proximité avec ces targets pour connaître leurs besoins, identifier leurs besoins, les défis, les opportunités pour que les projets qui seront proposés puissent répondre à ces besoins.
On retourne en République démocratique du Congo pour écouter. En fait, elle est aux États-Unis. C'est une Congolaise. Elle voyage entre les deux pays, États-Unis, RDC. C'est Nancy Yowa Ngalula qui est entrepreneur congolaise donc.
Il est essentiel d'impliquer les bénéficiaires dès la phase de conception du projet pour s'assurer que leurs besoins et aspirations sont bien compris et bien pris en compte. Pour garantir la faisabilité et la viabilité d'un projet communautaire, il est important de réaliser une étude de faisabilité approfondie qui analyse les ressources disponibles, les besoins de la communauté et les potentiels obstacles. La diversification des sources de financement et la formation des bénéficiaires à la gestion financière et administrative du projet contribuent également à sa pérennité. Le choix des partenaires est crucial pour le succès d'un projet. Il est recommandé de sélectionner des partenaires qui partagent les mêmes valeurs et objectifs et qui ont une expertise complémentaire à la vôtre. La transparence et la communication ouverte avec les partenaires assurent une collaboration harmonieuse et productive.
C'était Nancy Yowa Ngaloula qui a parlé notamment de plusieurs questions, mais de la faisabilité. Alors justement, concrètement, comment est-ce que on peut... Bon, on fait appel à des experts pour évaluer un futur projet ou faire des statistiques, les études de faisabilité. On peut faire soi-même, ça soi-même par exemple?
Oui, c'est faisable, mais ce sera mieux de travailler avec les experts parce qu'ils ont l'expérience et ils savent comment s'y prendre. Donc, la faisabilité est super importante pour s'assurer que le projet puisse avoir de l'impact et que les ressources ne soient pas investies pour rien.
Ouais, mais alors là, on n'a pas forcément les moyens de faire appel à un expert. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, en Afrique, des organisations qui peuvent apporter un tel soutien au niveau technique ou autre?
Oui, il peut s'en, oui, je pense qu'il y a des organisations, mais il est important, en fait, que la dame, elle avait mentionné un point, super important, celui d'appropriation. Il est important de travailler avec les différents groupes, que ça soit les ONG, que ça soit, la communauté locale, que ça soit, les membres du gouvernement, la société civile. Il est important de travailler avec ces différents groupes pour connaître le besoin et voir comment orienter le projet.
Donc, vous l'avez, effectivement, souligné tout à l'heure, diversifié, vous avez dit, on diversifie le portefeuille. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas?
Oui, diversifier le portefeuille.
Voilà. Alors, on retourne en RDC ou alors on y reste. On va aller voir Elodie Ntamuzinda, qui est du réseau des femmes francophones pour l'atteinte. Je me suis trompée, pardonnez-moi. On va passer Evelyne avant. Evelyne Mengue Akung, qui est directrice des rédactions de la télévision nationale du Cameroun. Donc, on va au Cameroun. Elle est journaliste.
Le problème vient d'un certain nombre de facteurs. Le premier étant l'immaturité des projets communautaires. Ce sont des projets qui ne sont pas suffisamment travaillés. L'environnement de leur mise en place et de leur développement ne sont pas matures. Et donc, ce sont des projets morts-nés. Au Cameroun, par exemple, l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises enregistre un taux de mortalité de projets ou de jeunes entreprises de pratiquement 70% dans les 5 premières années. L'autre facteur, c'est le profil des acteurs qui n'est pas toujours un profil éclairé, parfois des profils qui ne sont pas suffisamment accompagnés dans la structuration même de leurs projets et dans leur conduite. Le troisième point, c'est souvent que les projets ne sont pas toujours des projets qui développent des chaînes de valeur. Les projets de développement communautaire qui peuvent prospérer sont des projets qui sont suffisamment travaillés, suffisamment charnus pour développer une chaîne de valeur qui permette à plusieurs acteurs à différents niveau d'intervention du projet d'arriver à leur maturité. Il faut quand même des notions élémentaires de management, de gestion. Enfin, il y a, à mon sens, souvent beaucoup de naïveté autour de cette question et qui conduit souvent à des expériences malheureuses.
C'était la journaliste camerounaise Evelyne Mengue Akung. Manuela Mbayokoum, vous avez entendu, elle parle d'immaturité, de naïveté. Alors ça, c'est intéressant et un chiffre aussi assez catastrophique, on peut le dire. 60% des projets qui échouent, c'est beaucoup de gâchis, tout ça. Donc, comment éviter ça, finalement?
Mais déjà, il faut commencer par une planification participative. Donc, il faut impliquer la communauté, engager les différents membres de la communauté parce qu'ils connaissent leurs besoins. C'est trop facile de rester dans le confort de son bureau et imaginer ce qui pourrait marcher, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, la planification participative est importante. Identifier et consulter toutes les parties prenantes, y compris les autorités locales, comme je l'ai bien dit tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de définir des objectifs qui sont clairs et précis et qui pourront être mesurables, parce que si on va dans tous les sens, ça va être compliqué pour avoir des résultats. Le plus important, après cela, j'ajouterai le fait de mettre en place une équipe d'évaluation pour évaluer les résultats et aussi ajuster s'assurer à ce que le projet puisse être flexible et ne pas être figé.
Ok. Au cas où ça ne marcherait pas bien dans cette voie,
il faut changer de stratégie. Oh, okay. Exactement.
Des voies de sortie un
exactement,
petit peu.
Exactement. Oui. Être flexible.
Oh, bah alors ça c'est vraiment intéressant. Il fallait y penser en effet. C'est bien. C'est vraiment très intéressant. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'Elodie Ntamuzinda, qui est donc du réseau des femmes francophones pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Elle est en République démocratique du Congo. On l'écoute.
Il y a des obstacles. Est-ce que c'est la méconnaissance des dispositions et programmes d'accompagnement existants au pays? Il y a aussi la méconnaissance des vraies réalités. Est-ce que les constats dégagés par la plupart des femmes du secteur sont plutôt seules œuvrant dans les secteurs, dans les formels, pourraient-elles être causées par la faible participation? Donc, il y a tous ces questionnements. Et enfin, le groupe d'analyse a quand même formulé quelques recommandations, notamment à prendre connaissance des lois et dispositions qui renferment d'opportunités d'entrée dans les secteurs par les femmes, mais aussi des opportunités comme la loi sur la sous-traitance, les différents codes miniers, forestiers, etc. Ceux-là sont des opportunités à saisir. Aussi, est-ce que l'accompagnement des femmes, par exemple dans les programmes comme AGOA, ZECAF, a été bien boosté par le gouvernement? Nous sommes déjà ravis puisque nous avons une femme première ministre et nous avons plus de 30% des femmes au sein du gouvernement. Nous savons que nous allons travailler ensemble, mais dans la main, pour que cela ait un gain de cause.
Et voilà, c'était le positivisme d'Elodie Ntamuzinda, donc qui en fait parlait d'une analyse d'un groupe de travail, notamment sur toutes ces questions-là, voilà, quand on veut se lancer dans le secteur privé. Alors, au niveau, justement, vous avez parlé tout à l'heure des partenariats, des divers partenaires. Comment coordonner les organisations locales, nationales ou internationales, et les institutions gouvernementales pour garantir l'harmonisation des activités de partenariat? Autrement dit, comment doser dans tout ça? Est-ce que là, il faut aussi faire appel à des experts via le métier de coordonnateur, d'ailleurs, qui est très précis? Et c'est là que on rentre en ligne, on fait appel un petit peu au capital humain. Il faut vraiment miser sur les bonnes personnes, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Mais je dirais le plus important, ça sera la communication. Ramener tout le monde autour de la table, discuter et se fixer des objectifs qui sont clairs et précis, savoir dans quelle direction on compte y aller. Et une fois cela déterminé, on pourra passer à l'étape suivante, celle de la planification, celle de la mise en œuvre, celle du suivi et de l'implémentation et après de l'évaluation. Mais la communication est super importante pour s'assurer que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
Donc les divers acteurs du projet, vous préconisez qu'on se rencontre régulièrement, souvent, communiquer même à distance, faire des réunions régulières, faut jamais hésiter de communiquer au maximum, c'est ça?
Communiquer au maximum et être transparent. Communiquer au maximum d'une manière régulière, surtout, c'est important. Et maintenant, avec la technologie, nous n'avons pas forcément besoin de se retrouver tout le temps en physique. Les gens peuvent retrouver en ligne, au téléphone. Les moyens ne manquent pas. Mais la communication reste le point important pour assurer à ce que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que le projet puisse aller de mieux.
Et merci beaucoup d'avoir mis aussi l'accent sur la transparence, en effet, parce que il y a souvent des choses qui sont pas claires dans la communication. On se trompe, on pense à quelque chose, l'autre pense à autre chose. On fait beaucoup d'erreurs comme ça de communication et c'est pas simple la communication.
Hein. Non, pas du tout. Il y a aussi les non-dits et comme vous l'avez si bien mentionné, je peux dire quelque chose et vous pouvez mal le comprendre ou bien l'interpréter autrement.
Il y a de la confusion.
Et il est aussi important d'écrire, d'avoir des rapports de chaque activité pour garder des archives. Au moins, après, il y a une traçabilité.
Alors, écoutons à présent Christian Outchama, un auditeur de VO Afrique. Il est à Bounia en République démocratique du Congo. Et tout de suite après, on écoutera Hortense Kavuo-Maliro, qui elle est à Goma en RDC.
Entrepreneur en Afrique, ça prend vraiment une grande place, surtout dans les cadres des emplois aux jeunes. Bon, il y a aussi des difficultés concernant ça, surtout si on veut vraiment se lancer dans un projet. Ça demande vraiment beaucoup de temps pour trouver un fonds. C'est ça aussi les difficultés. Et aussi, l'autre problème est lié, une fois vous avez lancé un projet, surtout dans mon pays, c'est la République démocratique du Congo, les gens de l'État voulaient qu'un groupe puisse vous soutenir et vient encore vous demander des taxes. Pourtant, ils n'ont rien fait pour vous aider. Il faut que vraiment l'État puisse accompagner afin que l'entrepreneuriat puisse réussir, parce que c'est ça vraiment qui est actuellement comme la base, que les jeunes ne sont pas dans le chômage. Merci. Moi, c'est M. Christelle Outiama, en République démocratique du Congo, dans la ville de Bougne.
Je pense qu'il faut faire comprendre aux bénéficiaires les bien fondés de ces projets communautaires et arriver à demander l'implication de tout un chacun dans la réussite de ce projet. Et il faudrait qu'ils arrivent à s'approprier en 100% de ces projets. Le suivi régulier doit être fait, ainsi que le renforcement des capacités des bénéficiaires. Cela va permettre la pérennisation du projet en question. Bon, mais il y a des fois que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je dois souligner ici qu'il faut arriver à financer des bons projets qui cadrent avec les besoins réels de la communauté. Car la plupart des partenaires financiers, et ils ont l'habitude de canaliser les fonds dans des projets qui n'aident pas réellement. Hein? Des projets à court terme, d'impact rapide, avec peu de fonds. Et cela fait à ce que la durabilité pose problème dans l'autonomisation des jeunes et des femmes.
C'était la politicienne congolaise Hortense Kavuo-Maliro, militante des droits humains, entrepreneur sociale, hein, qui a notamment ouvert une école d'enfants handicapés moteurs, entre autres. On a quelques commentaires, notamment sur le Facebook de VO Afrique, celui de Alphonse Mbouaki, qui est de Kinshasa en RDC. Alors il a écrit, je le cite, « Les programmes doivent être mis en œuvre au niveau local afin de transférer l'expertise et de développer les compétences. » On pourra revenir là-dessus, ça c'est intéressant. Lunka Eratus, il est au Tchad. Il est au Tchad, il dit, il faut parfois faire un plan de développement de ton projet d'autonomisation qui restera malheureusement sans succès auprès du ministère de tutelle. Ça c'est intéressant, je crois que Caroline qu'on va écouter tout à l'heure, elle en parle aussi, mais vous l'avez bien dit, Manuela, ne pas compter essentiellement sur le gouvernement. Et on a Jim Rangarosana, qui est également, lui il est au Tchad aussi. Non, c'est Nibisali, pardon. Et il dit la Covid-19 a perturbé l'activité rurale des jeunes et des femmes. Alors, c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a encore des gens qui parlent de la Covid à l'heure actuelle. Ça commence à dater tout de même, mais on voit vraiment que ça a traumatisé beaucoup de personnes. Hein. Manuela, sur la question des prêts, je reviens sur la question des financements. On parle souvent de microfinancement. Les prêts, bon... Qu'on se le dise, une banque est là pour faire du profit, que ce soit petite ou grosse banque, les prêts, on vous les octroie s'il y a des intérêts. Mais en revanche, vraiment, quels sont les bons plans pour pouvoir, quand on débute une petite activité, un entrepreneuriat social ou autre, pour pouvoir disposer de bons prêts?
Oui, merci beaucoup pour cette question qui est super intéressante. Dans le cas d'autonomisation des femmes, il est important de les aider et de les accompagner à monter un bon projet et avoir les bons documents. Parce que si le projet n'est pas bien monté et que vous ne réussissez pas à bien communiquer vos intentions, comme vous l'avez si bien mentionné, les banques sont là pour faire des chiffres. Et donc, ils ne pourront pas vraiment bien visualiser ce que vous essayez de faire, voir les intérêts. Il y a des chances qu'ils puissent pas vous soutenir. Donc, il faut investir dans les compétences et également, en fait, vulgariser les microfinancements. Et aussi, cela permettra aussi de promouvoir l'entrepreneuriat. Les gens ont beaucoup d'idées, mais malheureusement, ils n'ont pas les financements nécessaires pour pouvoir matérialiser ces idées.
Donc, il faut bien faire comprendre aux banques dans votre plan de travail que vous allez gagner beaucoup d'argent. Voilà,
oui.
C'est ce qu'ils veulent savoir.
Et savoir exactement comment, d'une manière pratique, comment vous comptez vous prendre l'argent qu'ils vont vous octroyer, comment vous comptez l'utiliser et comment vous allez le multiplier.
Donc on écoute pour terminer Caroline Pindi, qui est architecte en RDC et qui fait beaucoup de tutorat justement pour des jeunes qui veulent se lancer dans la profession.
C'est vrai que l'entrepreneuriat social est très présent dans mon pays, la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'initiatives dans le sens de créer des ONG, de créer des ASBL. Mais le problème que rencontrent ces structures, c'est vraiment un problème de financement. Ces structures ne sont pas financées. La plupart s'autofinancent elles-mêmes et c'est très compliqué. Le fait de s'affilier aussi à un ministère de tutelle, déjà c'est compliqué d'obtenir des papiers, d'être justement affilié à ce ministère. Et la deuxième chose, c'est aussi d'obtenir un un alignement, d'être aligné par rapport aux subventions justement que reçoivent ce ministère-là. Il y a également les organismes internationaux qui sont là. Ces structures peuvent signer des collaborations, mais ce n'est pas courant et les structures internationales sont très sélectives. Donc le gouvernement ou les personnes justement qui gèrent doivent comprendre que les ONG, ces structures-là, c'est elles qui font le pont justement entre le gouvernement et la population. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment essayer d'encadrer pour qu'il y ait des bons résultats.
Et voilà, c'était pour terminer Caroline Pindi qui est en République démocratique du Congo. Elle est architecte. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, c'était Lionel Gaïma. Comme invité, nous avions Manuela Mbayokoum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Manuela. C'était vraiment un grand plaisir d'écouter vos conseils. Restez avec nous à l'écoute de VO Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.